le journal.
Le journal, présenté par Stanislas Vazak.
Bonsoir. Le Premier ministre néerlandais Mark Rutte sortirait vainqueur des élections législatives aux Pays-Bas. Son parti, le VVD, aurait une large avance sur trois autres formations, dont le PVV du populiste Geert Wilders. Nous serons à Amsterdam dans un instant avec Bertrand Galichet. Nouvelles attaques verbales de la Turquie contre les Pays-Bas et l'Europe. Le président Erdogan accuse maintenant les Néerlandais d'être responsables du massacre de Srebrenica et il parle de fascisme débridé dans l'Union européenne. Les dirigeants européens lui ont vertement répliqué aujourd'hui au Parlement de Strasbourg. Le reportage d'Anya Vogel. Invité de ce journal, Alper Basaran, un spécialiste turc de la sécurité informatique. Nous évoquerons avec lui le piratage de dizaines de comptes Twitter, piratage attribué à des partisans d'Erdogan. L'Europe a donc les yeux braqués ce soir sur les Pays-Bas, où l'on votait aujourd'hui pour les élections législatives. Un scrutin qui a valeur de test au moment où les partis populistes ont le vent en poupe au sein de l'Union européenne. Les bureaux de vote ont fermé il y a une heure et les premières estimations donnent une large avance aux libéraux du Premier ministre sortant Mark Rutte. Les libéraux qui distanceraient largement le PVV, le parti populiste anti-islam de Geert Wilders. On retrouve à Amsterdam l'un de nos envoyés spéciaux, Bertrand Galichet.
C'est le parti libéral VVD du Premier ministre sortant, Mark Rutte, qui arriverait en tête de ces législatives aux Pays-Bas, selon les premiers sondages sortis des urnes, avec une projection de 31 sièges sur les 150 à pourvoir. L'extrême droite de Geert Wilders serait en deuxième position avec 19 sièges. Il gagne 4 députés, ex aequo avec les chrétiens démocrates du CDA et avec les sociaux-libéraux de D66 qui obtiennent chacun 19 sièges. Enfin, les Verts du jeune Jesse Klaver réussissent une percée spectaculaire en multipliant par 4 leur nombre de députés qui passent de 4 à 16. Le parti du chef du gouvernement conserve donc une forte avance sur ses concurrents malgré un recul de 10 sièges. Un tiers des électeurs de ce parti, le VVD, disent avoir été positivement influencés dans leur vote par la gestion de la crise diplomatique avec la Turquie, où le Premier ministre a fait preuve de fermeté. Même s'il progresse de 4 sièges, le parti de Geert Wilders ne bouleverse pas le paysage politique néerlandais. Parmi les hypothèses de coalition, celle que pourrait diriger le chef du gouvernement sortant, Mark Rutte, serait assez large, allant des libéraux jusqu'aux verts. À noter enfin l'entrée au Parlement du parti musulman Denk, qui obtiendrait 3 sièges.
Bertrand Galichet depuis Amsterdam. Bertrand Galichet qui nous rappelait à l'instant que le gouvernement néerlandais n'avait pas hésité à annuler les meetings de deux ministres turcs prévus la semaine dernière à Rotterdam. Mais depuis, la Turquie multiplie les attaques et les insultes contre les Pays-Bas. Après avoir dénoncé des méthodes nazies, le président Erdogan accuse maintenant les Néerlandais d'être responsables du massacre de Srebrenica en 1995 en Bosnie. Erdogan s'en prend aussi à l'Europe en général, en évoquant un esprit de fascisme débridé qui régnerait dans les rues européennes. Propos inacceptables pour les dirigeants de l'UE, ils l'ont fait savoir aujourd'hui au Parlement de Strasbourg. Anya Vogel.
Après plusieurs jours de cafouillage où certains pays européens ont annulé des meetings et refoulé des ministres turcs, les autres non, les dirigeants de l'Union ont fini par taper du poing sur la table, aussi bien le président du Conseil européen, le fraîchement reconduit Donald Tusk, que le président de la Commission, Jean-Claude Juncker. J'ai été scandalisé par ce qui a été dit par la Turquie sur les Pays-Bas, l'Allemagne et d'autres. Je n'accepterai jamais cette comparaison entre les nazis et les gouvernements actuels. Des propos incompatibles avec l'ambition d'Ankara de rejoindre l'Union, a souligné Jean-Claude Juncker, certains eurodéputés allant jusqu'à demander l'arrêt des négociations d'adhésion. Pas si simple, selon le Vert Pascal Durand.
Il est clair que l'Union européenne devrait réagir de manière beaucoup plus forte. Mais parce que M. Erdogan nous aide à nous comporter de manière indigne avec les réfugiés et à les laisser sur son territoire plutôt que les voir venir en Europe, on a là tous les ingrédients et tout le cocktail pour que l'Europe se ridiculise et laisse M. Erdogan mener une politique qui est une politique politique à l'antithèse des valeurs que porte l'Union européenne.
Un an après sa conclusion, le pacte migratoire avec la Turquie a considérablement réduit l'afflux de réfugiés, mais l'Europe n'a toujours pas libéralisé les visas, jugeant la législation antiterroriste turque liberticide et inacceptable.
Anya Vogel, correspondante auprès des institutions européennes à Strasbourg. Et ce soir, la Turquie profère de nouvelles menaces contre l'Union européenne. Ankara envisage de remettre en cause l'accord migratoire avec Bruxelles. Nous pouvons mettre fin à cet accord unilatéralement, déclare le ministre turc des Affaires étrangères Mevlut Cavusoglu dans une interview télévisée. C'est dans ce contexte que des hackers favorables au président Erdogan ont piraté de nombreux comptes Twitter certifiés. La liste des victimes est longue. Amnesty International, le ministère français de l'économie, la BBC Amérique du Nord, Alain Juppé ou bien encore la filiale argentine de Starbucks. Et ce ne sont quelques exemples pris dans une liste particulièrement hétéroclite. À chaque fois, les comptes ont affiché des messages, des photos ou des vidéos favorables au régime turc. Invité de ce journal, Alper Basaran, spécialiste de sécurité informatique en Turquie. Bonsoir.
Bonsoir.
Je précise que vous dirigez une entreprise, Garnison, qui travaille à la fois pour des agences gouvernementales turques et pour des entreprises. Alper Basaran, première question, qui est à l'origine de ce piratage? A-t-on seulement une idée du ou des responsables?
C'est une question toujours difficile quand il s'agit des attaques sur Internet parce que, au bout du compte, on n'a aucune trace physique. On a juste des soupçons ou des traces un peu par-ci par-là. Mais dans ces attaques, nous avons, au fait, le message laissé par les attaquants. Donc, nous sommes à peu près en état d'identifier, entre guillemets, les coupables.
Ça vous semble être une attaque professionnelle?
En ce qui concerne les attaques sur Internet, au fait, professionnel, amateur, c'est pas vraiment la distinction qu'il faut essayer de faire. Nous voyons deux principaux groupes d'attaques. Le plus important ou le plus dangereux, c'est les attaques sponsorisées par les États. Donc, où on a vraiment un gouvernement, un pays ou une force politique derrière les attaques. Et on a le reste. Parce qu'au bout du compte, pour faire une attaque sur Internet ou pour pirater un système, la seule chose dont vous avez besoin, c'est un ordinateur. Ce qui est à la portée à peu près de tout le monde. Ce qui fait la différence entre les attaques, c'est la cible ou vraiment ce que l'attaquant a essayé de faire. Donc, s'il a fait cette attaque pour laisser un message politique ou autre, on peut dire que ce n'est pas vraiment une attaque sponsorisée par un État. Mais si vraiment les attaques comme nous avons vu qui ont été faites contre les sites nucléaires en Iran, où vraiment le bout du jeu, ce n'était pas de se prononcer en tant qu'attaquant, mais d'avoir un effet stratégique ou tactique sur la cible, là, on peut parler d'une attaque un peu plus professionnelle, entre guillemets, dans le sens que vous comprenez. Mais cette attaque peut vraiment, au bout du compte, être faite par un gamin de 13, 14 ans, comme nous le voyons souvent.
En l'occurrence, il s'agit d'une attaque favorable au président turc Erdogan, mais est-ce qu'il faut en conclure que le régime turc a joué un rôle dans cette attaque?
Au fait, nous avons vu un scénario assez semblable en Estonie en 2007, où on a eu des hackers ou des pirates pro-russes qui ont ciblé plusieurs systèmes estoniens. Et là, Poutine s'est prononcé en disant que nous n'avons pas joué un rôle là-dessus. C'est des personnes qui ont fait preuve d'initiative parce qu'ils avaient des sentiments nationalistes. Donc, je pense que c'est plutôt le cas ici. Il faut aussi mettre ça en contexte par rapport à la Turquie parce que nous avons passé une année assez difficile et avec le coup d'État raté et tout ça, c'est des choses qui soulèvent les sentiments nationalistes. Donc ça, accompagné de la facilité d'attaquer les systèmes sur Internet, nous avons vraiment un cocktail où on peut avoir des jeunes, 13, 14, 15 ans, qui veulent se prononcer politiquement, qui sont pro-Erdogan ou autres, qui veulent laisser un message, se faire connaître et lancer cette attaque. Les attaques sponsorisées par les gouvernements, d'habitude, ne sont pas aussi facilement visibles, entre guillemets, parce que les attaques qui sont sponsorisées par les États ont des buts stratégiques, militaires ou tactiques.
Et là, quand on s'attaque à Starbucks Argentine, par exemple, il n'y a pas forcément un but stratégique, c'est ça?
Tout à fait. Par exemple, un groupe hacker turc qui fait la une dans les journaux à peu près partout dans le monde, Akıncılar ou Akıncılar, si vous visitez leur site, vous voyez des tas d'attaques d'opérations contre Israël, contre l'Égypte, contre l'Iran, contre l'Arménie. Donc c'est visiblement un groupe de jeunes qui s'attaque à peu près tous les pays dans le monde entier.
D'une façon générale, Alper Basaran, les hackers turcs sont très actifs sur les réseaux sociaux?
Sur les réseaux sociaux, oui. ils sont assez actifs. Nous sommes une population assez jeune. Donc, nous avons beaucoup de jeunes qui sont d'une part ou d'une autre, ou en partie ou totalement, dans le monde du hacking, qui sont normalement derrière ces attaques.
Et la plupart du temps, il s'agit de jeunes plutôt favorables au pouvoir turc?
Nous avons les deux, favorables et défavorables, qui ont chacun leur cible, évidemment. Donc là, ce coup-ci, c'était pro-Erdogan, ce qui ne veut pas dire que dans deux jours, trois jours, ce ne sera pas une autre faction qui est contre Erdogan, mais qui a choisi cette cible pour porter son message dans le monde. Vous voyez, c'est juste une façon de se trouver une excuse pour attaquer une cible. Nous avions eu un scénario assez semblable avec Israël il y a quelques années. Nous avions eu des groupes de hackers jeunes qui sont prononcés disant « Ok, nous avons attaqué Israël, Israël n'est plus sur Internet, nous avons tout effacé ». Et là, quand on a vu les attaques qu'ils avaient effectuées, les cibles, c'était un marchand de fleurs, une station de taxi, un fabricant de portes. Donc ce n'était pas vraiment, comme vous dites, ça aurait pu être Starbucks ou le café du coin, ça n'aurait pas changé. Donc l'idée, justement, c'est de se trouver une cible, une excuse d'attaquer et de mettre son message.
Alper Bassaran, merci d'avoir été l'invité de France Culture ce soir. C'est aussi une conséquence de la crise migratoire. Le camp de Grande-Synthe près de Dunkerque pourrait fermer d'ici l'automne. C'est en tout cas l'objectif affiché par le ministre de l'Intérieur, Bruno Le Roux, qui a évoqué aujourd'hui devant le Sénat un démantèlement progressif. Cette fermeture, Damien Carême, le maire écologiste de Grande-Synthe, la refuse. Le camp est une structure qui répond aux normes humanitaires internationales pour l'accueil des migrants. Mais un an après l'ouverture, la situation s'est considérablement dégradée. Marie-Pierre Véraud.
Ce sont, semble-t-il, les incidents de mardi soir à l'entrée du camp de Grande-Synthe, quand des passeurs afghans ont mis le feu à une poubelle, et les violences, qui ont duré une demi-heure, qui ont motivé cette déclaration un peu rapide de Bruno Le Roux. Il ne s'agit pas de démantèlement, ni d'une fermeture rapide de ce camp, à laquelle s'oppose d'ailleurs le maire de Grande-Synthe, mais d'une réduction progressive du camp, avec l'objectif de passer de 1500 à 700 personnes d'ici fin juin, et l'ouverture en parallèle de places en centre d'accueil et d'orientation pour les migrants de Grande-Synthe. À terme, tous visent bien sûr un démantèlement de ce camp, mais pas avant plusieurs mois, peut-être en septembre prochain. Ce qui est sûr, c'est que les conditions sanitaires à Grande-Synthe se sont dégradées. Avec l'entassement de 1500 personnes dans 300 cabanons qui ont mal vieilli depuis un an, avec des violences qui frappent les femmes et les mineurs isolés sans aucune prise en charge spécifique et des tensions dues à la présence forte de réseaux de passeurs qui contrôlent le camp. C'est justement pour demander des moyens de sécurité supplémentaires que Damien Carême, le maire de Grande-Synthe, rencontre Bruno Le Roux ce jeudi avant demain de signer un avenant à la convention passée avec l'État avec la ministre du Logement, Emmanuelle Cosse. Avenant qui doit prévoir la mise à l'abri des migrants quittant Grande-Synthe. Mais les associations s'inquiètent de l'absence de solutions pérennes d'accueil et de pragmatisme alors que les arrivées se poursuivent, notamment celles de mineurs. Faute de réponses adaptées, mettent-elles en garde, les violences risquent de se multiplier.
Marie-Pierre Véraud, à droite, Xavier Bertrand, le président Les Républicains de la région des Hauts-de-France, s'est félicité sur Twitter de l'annonce de la fermeture du camp de Grande-Synthe. La seule solution pour rétablir l'ordre, ajoute Xavier Bertrand. À l'instar de Volkswagen, le groupe Renault a-t-il triché sur les tests anti-pollution de ses moteurs? Le quotidien Libération publiait ce matin des extraits d'un procès-verbal de la répression des fraudes. La DGCCRF soupçonne le constructeur d'avoir installé un dispositif pour fausser les tests sur les émissions de polluants des moteurs diesel. C'est faux, assure le groupe dans un communiqué. En tout cas, le parquet de Paris a ouvert une information judiciaire en janvier dernier pour tromperie. Hakim Kasmi.
Si Renault, par la voix de son numéro 2, Thierry Bolloré, dément avoir triché sur ses moteurs, ce n'est pas du tout l'avis de la répression des fraudes, dont le rapport est accablant. Pour passer à travers les mailles du filet, le constructeur aurait installé un logiciel qui permettait de fausser les résultats lors des tests d'homologation grâce à un système électronique qui savait reconnaître automatiquement lorsque le moteur était en phase de test. Selon la répression des fraudes, il n'y aurait pas que les modèles récents comme le Captur ou encore le Kadjar ou le nouvel Clio 4 qui seraient concernés par ces fraude, soit 900 000 véhicules. L'affaire est en fait bien plus grave, car selon le témoignage d'un salarié recueilli par le gendarme de Bercy, la fraude remontait aux années 90. C'est ainsi que la première génération de Clio Essence, la voiture la plus vendue en France, elle aussi, eh bien, n'aurait pas respecté les normes anti-pollution. Au niveau des responsabilités, cette fois, la DGCCRF estime que l'ensemble de la direction de Renault est impliqué, Carlos Ghosn en tête, son PDG emblématique. Avec plus de 3 millions de voitures vendues l'année dernière à travers le monde, un record pour Renault, la marque Losange risque 3,5 milliards d'euros d'amende. De nombreuses associations, comme France Nature Environnement ou encore l'UFC Que Choisir, se sont déjà portées partie civile.
Hakim Kasmi, merci. La météo demain, une belle journée sur tout le pays, en dépit de quelques nuages du côté des côtes de la Manche. Les températures maximales sont très douces pour une mi-mars. 12 à 21 degrés au nord, 18 à 23 au sud. C'est la fin de ce journal préparé ce soir avec Jean-François Braun.